Aïe, 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 aïe. Même les plus expérimentés peuvent faire des erreurs. Jérôme, vraiment, là, c'est ce que je constate au cours des dernières minutes. François Legault qui est sur la défensive, je pense que ça va faire pas mal le tour de l'actualité. Si vous avez pas vu ça passer, vous allez en entendre parler dans les prochaines heures, je suis pas mal certain. À moins qu'il y ait une grosse annonce à 13h au point de presse. Mais ce qui a fait beaucoup parler à l'Assemblée nationale à la période des questions, notamment à 10h ce matin, c'est que François Legault a accordé une entrevue à notre collaborateur Alec Castonguay, l'excellent Alec Castonguay, dans la revue L'Actualité. Et il est questionné sur sa gestion de la crise. Et Alec lui demande, avez-vous fait une erreur, quelque chose que vous aimeriez faire différemment? Ce à quoi le premier ministre a répondu, non, je n'en vois pas.
Parle-en pas trop, parce que ça, c'est un bon truc de journaliste. Quand tu veux faire sortir un politicien, moi je l'ai fait souvent, là, ou un directeur d'aéroport, mettons, de sa cassette, c'est que tu lui demandes de se donner une note. Tu sais, c'est dur de te sortir une cassette, puis il y en a beaucoup qui tombent dans le piège. Je l'ai expérimenté. J'ai déjà fait ça avec Jean Charest une fois. Je sais pas si c'était toi qui travaillais avec dans le temps, là. Mais il s'était donné, je pense, 8 sur 10. Mon entrevue s'était ramassée dans les journaux, puis envoyé donc, puis let's go. Puis j'ai fait ça il y a pas longtemps que le directeur, l'ancien directeur de l'aéroport de Québec aussi, monsieur Gagné. Bon,
en fait, tu parles de mes deux anciens patrons.
Ouais, tes deux anciens boss, c'est ça. T'avais de l'ouvrage avec eux autres.
T'es mal briefé.
Bien, Gagné, s'était donné 10 sur 10 de gestion de l'aéroport de Québec.
Je devais pas être là.
Parle-en pas trop de ce piège-là.
Si j'étais en agence de relations publiques, OK, et que je faisais une formation, j'ai trois conseils de base. Les trois règles, je être sûr que je les mets dans, trois règles de base. Tu parles jamais de toi à troisième personne. Ça, c'est la preuve. Quand quelqu'un dit, mais qui est Jérôme Landry? Faut que tu switches ça à la première personne.
Jérôme Landry est né à Charlebourg en 1976.
Entendre que tu scrapes tout ton message. Tu peux beau dire quelque chose d'ultra pertinent, tu scrapes tout ton message, tu ne parles jamais de toi à la troisième personne. Deuxième règle de base, tu ne cites jamais Hitler. Tu fais jamais de comparaison avec les nazis. Tu sortiras jamais gagnant de ça. Et troisième règle de base, c'est vraiment dans le B.A.B.A., tu donnes pas de notes. Tu fais jamais ça.
Jamais.
Tu t'en sors jamais.
Puis autre chose aussi.
Tu tombes pas dans ce piège.
Jamais parler du prix de faire une épicerie aussi pour une semaine pour une famille. Jamais te lancer là-dedans. Faut que ce soit enseigné dans les grandes facultés de relations publiques, les faiseux de messages, de communicateurs. Des communicateurs, oui.
Des communicateurs, oui, mais en même temps...
Le blabla, la bouillie pour les chats des agences de communication.
Ben non, M. Jérôme. Oui. Il t'appelait M. Jérôme.
Oui, M. Gagné, oui, ça. Oui.
M. Jérôme.
Oui. Oui, M. Jérôme.
Mais en même temps, on a mauvaise presse, les relationnistes. Moi, j'ai fait ça comme job, puis les porteurs de valise, puis les ci, puis les ça...
C'est que vous protégez votre...
Ben, c'est ça.
Vous protégez votre politicien. Vous êtes payé pour ça, pour éviter qu'il se mette dans la merde. Mais ça, le public, tu comprends que le public est pas gagnant nécessairement là-dedans. Ça favorise la cassette, ça favorise la protection du client ou du politicien. Je comprends très bien la job des agences.
Oui, mais en même temps, un bon relationniste devrait être conscient que dans sa façon de conseiller son client, faut pas qu'il rende complètement drabe,
ça
devienne édulcoré. Il y a moyen de dire à quelqu'un... assure-toi que ton message est bien capsulé. Fais attention aux pièges, etc.
Faut que t'en donnes un peu.
Ça veut pas dire d'être plate.
Faut que t'en donnes un peu aux médias. Toi, je pense que t'avais compris ça, Joe.
Je pense que oui.
Je pense que t'avais compris ça. Genre, tu permettais, mettons, à ta ministre de souhaiter bonne fête à un animateur de radio.
Ben oui!
Faut que t'en donnes un peu aussi.
J'avais fait appeler Stéphane Dupont, Nathalie en
exact.
T'étais déjà une job en radio.
C'est peut-être ça.
Il a toujours aimé ça. Ben oui.
Hey, on va parler de stress. On en discutait tantôt, là, l'espèce de jeu de yo-yo du gouvernement sur ce qui sera permis ou pas dans le temps des fêtes. Ça risque de causer beaucoup de stress dans la population. Puis la situation, en général, évidemment, est très stressante pour les gens. On va en discuter avec Marie-France Marin, qui est docteur en neurosciences et chercheuse. Madame Marin, bonjour.
Bonjour.
Premièrement, j'aimerais qu'on démêle un peu les choses. Lorsqu'on parle d'angoisse, de stress, d'anxiété, est-ce qu'on est dans des espèces de vases communicants, dans des synonymes, ou comment on peut diviser, catégoriser ça?
Ben ça vient un peu ensemble, je dirais que c'est clair que un et l'autre se nourrissent. Par contre, La grande différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, la menace, elle est là devant nous, elle est immédiate. Tandis que l'anxiété, ça se passe beaucoup plus, avec notre hamster dans notre tête. Donc, on se fait un scénario, on s'imagine qu'est-ce qui pourrait arriver. Et parfois, ce scénario-là peut être réaliste ou il peut être complètement catastrophique et exagéré. Mais le fait qu'on soit en train de penser à quelque chose de potentiellement stressant dans le futur, c'est suffisant pour produire des hormones de stress. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est plus anxieux à la base va avoir tendance à imaginer des menaces et donc à produire des hormones de stress déjà. Et là, lorsqu'il fait face à d'autres stresseurs, ben, il en produit encore plus. Fait que c'est comme ça que le stress et l'anxiété se nourrissent, dans le fond.
Mais là, si on prend la période des fêtes qui s'en vient, Mme Marin, là, j'ai de la misère à me positionner pis à comprendre ou à, t'sais, avoir une position claire parce que, là, il y a des gens, on dit que les gens sont plus anxieux en lien avec l'incertitude du temps des fêtes, pas voir leur famille, etc. Mais en même temps, il me semble qu'à chaque Noël, il y a des gens qui expriment de l'anxiété parce que on sait pas trop où on va aller, qui choisir, les parties, ça finit plus, on peut pas se reposer pour vrai. Mais est-ce qu'un Noël, finalement, un peu plus tranquille, ça viendra pas aussi apaiser peut-être certaines anxiétés pour certains?
Vous avez tout à fait raison. Nous autres aussi, on a de la misère à se positionner, je vous dirais. Alors, en fait, ce qu'on sait, c'est que pour qu'une situation soit interprétée comme étant stressante, et le mot « interprétation » est important ici, on a une réponse de stress si on fait face à quelque chose où est-ce qu'on est réellement en danger. Donc, si vous faites un accident de voiture et vous êtes, je sais pas, vous avez blessé quelqu'un, c'est clair que tout le monde va avoir une réponse de stress. Ça, c'est normal. Mais la majorité de nos stresseurs en 2020, même incluant la pandémie, parce qu'il y a plusieurs stresseurs liés à la pandémie où est-ce que notre vie n'est pas réellement en danger. Tu sais, le fait de devoir choisir qui va venir au party de Noël, le fait de devoir faire l'école à la maison, notre vie n'est pas en danger à cause de ça. C'est pas le fun, mais c'est quand même pas dramatique. Et donc, pour qu'une situation soit interprétée comme étant stressante, elle doit avoir une des quatre caractéristiques suivantes. C'est-à-dire qu'elle doit être soit nouvelle, imprévisible, menaçante pour notre ego, donc ça se remet en question nos compétences, nos habiletés, nos valeurs, ou encore on a l'impression de ne pas avoir le contrôle ou de perdre le contrôle. Donc, si on remet dans le contexte par rapport au temps des fêtes, ben c'est clair que oui, il y a de l'imprévisibilité, mais comme vous l'avez dit, ça dépend comment on vit ça. Tu sais, il y a des gens que quand on n'était pas en temps de pandémie, eux, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas le contrôle parce qu'ils devaient manquer un party sur deux parce qu'il y en avait trop, ou encore que c'est tout le temps imprévisible ou que ça menaçait leur ego parce qu'ils sentaient qu'ils étaient obligés d'y aller, sinon ils allaient être rejetés pour les prochains parties, etc. Et là, avec la pandémie, ben on a d'autres incertitudes, d'autres imprévisibilités. Alors, tout ça dépend de l'interprétation. Puis, il y a des gens présentement qui ne voient pas le temps des fêtes comme étant stressant parce qu'ils se disent « Enfin, je vais pouvoir rester chez nous, prendre ça relax. » Et c'est ça qu'ils veulent, ils reprennent le contrôle. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de différences individuelles d'une personne à l'autre.
Si on prend la situation des fêtes ou même la situation en général de la pandémie, la question est peut-être pointue, mais je suis curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que le fait que notre situation personnelle soit multipliée considérablement, bon, dans ce cas-ci, la personne qui est stressée parce qu'elle est seule chez elle, etc., mais qu'elle voit que c'est des centaines de milliers, des millions et des millions de gens au travers de la planète qui vivent la même situation, est-ce que ça peut venir tempérer notre stress? Est-ce qu'au contraire, ça vient l'accentuer ou ça a aucun impact parce que c'est notre situation personnelle, point à la ligne?
Bien, c'est sûr que le stress, c'est une question individuelle à la base. Par contre, le fait de voir qu'on est tous un peu dans le même bateau présentement, et ça à l'échelle planétaire, en fait, je pense que ça peut aider certaines personnes à relativiser, tu sais, à moins sentir justement que c'est contre eux. Et donc, pour certaines personnes, ça peut venir mettre un baume ou tempérer un peu, mais n'empêche qu'à chaque matin, on se réveille en voyant des menaces, en voyant le nombre de morts, en voyant le nombre de cas à chaque jour, et ça, notre cerveau ne demeure pas insensible face à ça. Donc, il va produire des hormones. Et le fait qu'on en produit depuis le mois de mars sur une base assez quotidienne pour la majorité des gens, c'est là qu'on voit un peu les signes de stress chronique qui commencent à apparaître dans la population. Tu sais, au mois de mars-avril, tout le monde était mobilisé pour pouvoir aider le voisin et puis faire l'école à la maison. Et tu sais, on se réorganisait, on était vraiment en réponse de stress aigu, en mobilisation d'énergie. Et là, on commence à avoir des effets un petit peu plus du stress chronique chez certaines personnes parce qu'on commence à être fatigué. Alors, même si on se dit qu'on est tous dans le même bateau, ben le stress, étant donné qu'il a perduré là, à travers plusieurs mois, on commence à avoir les effets plus négatifs du stress apparaître, je dirais.
Je vais vous dire comment je me sens, OK, Mme Marin. Moi, il y a à peu près trois semaines, j'ai pris la décision, j'ai pas attendu le point de presse, puis les directives, ici, les ça, là. Je me suis rentré dans la tête que ça allait être tranquille, Noël. Au-delà des tergiversations et de tout ça, ça va-tu me péter d'en face ou ça se peut que j'ai réussi à prendre le contrôle sur ma propre anxiété, mon propre stress, justement en essayant de prendre le contrôle puis en planifiant moi-même mes affaires, là?
Vous avez fait la bonne chose, je vous dirais. Présentement, les gens qui souffrent le moins, ce sont ceux probablement qui acceptent de s'adapter. Le mot adaptation est super important. Pensez à un arbre dans la forêt, puis il y a un énorme vent qui souffle depuis plusieurs journées. Si l'arbre refuse de plier un peu puis il reste droit, bien raide, ben c'est clair qu'à un moment donné, le vent risque de le faire casser. Fait que ce qu'on veut ici, c'est d'accepter des fois de plier, d'accepter de faire des compromis, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais d'accepter de suivre la vague dans ce cas-ci et de dire, ben oui, cette année, j'accepte que ça soit différent. Et en acceptant ça, tu sais, quand vous dites, je me l'ai rentré dans la tête, ben c'est ça, en acceptant le changement, vous reprenez le contrôle exactement sur la situation. Et puisque le stress, il y a beaucoup, beaucoup de ça qui est lié à notre interprétation, ben probablement que vous allez moins souffrir que bien d'autres personnes qui refusent de changer leur habitude, puis Noël doit être comme il était l'année passée, mais il ne le sera pas.
En même temps, ce n'est pas tous les gens qui ont la même sagesse que mon collègue Jérôme.
Ben, je ne suis pas sûr que je suis plus sage. C'est juste que je veux pas, moi, je veux pas être dépendant nécessairement des directives puis attendre juste après ça. Je pense pas que je serais heureux là-dedans.
C'est ça, ben il reste qu'il y a des gens qui attendent ça. Et je me rappelle, Mme Marin, d'une étude de l'Université de Sherbrooke qui a été publiée il y a quoi, un mois ou deux de ça, qui parlait de l'importance de la clarté du message, de la cohérence aussi du message, parce que si les gens qui s'abreuvent des directives gouvernementales ont pas de message clair, ont un message qui est changeant, qui est pas toujours cohérent, ça vient augmenter le stress.
Oui. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on est stressé, parce que là, la majorité des gens sont plus qu'à l'habitude, alors notre cerveau n'est pas n'est pas très rationnel. Disons qu'on a un cerveau qui fonctionne de façon optimale au niveau de la compréhension, de l'interprétation des nuances, etc. Donc, il faut quand même aider la population. Plus le message est clair, moins il y a de place à l'interprétation et on s'assure que tout le monde suive la même ligne. Alors, au printemps, il y a eu plusieurs critiques face au gouvernement par rapport au fait que les consignes n'étaient pas claires, puis il y avait des chiffres, ça dépendait des régions, puis bon. Alors là, ils sont allés d'un message qui était uniforme, qui était le même pour tout le monde, pour le temps des fêtes, en se laissant une porte de sortie qui risque peut-être d'être utilisée, parce que là, on voit que les cas augmentent. Alors, oui, la clarté aide, mais en même temps, on peut pas blâmer nécessairement le gouvernement. Ils doivent aussi se fier aux capacités des soins, tu sais, du service de santé. Alors, c'est un beau débat qui se passe présentement, mais plus le message est clair, plus ça va aider la population à savoir quoi faire. Et donc, ça va diminuer leur stress parce qu'ils ont moins d'ambiguïté.
Moi, j'en viens un petit facteur d'anxiété présentement. Ça m'envahit pas, mais je serais menteur de vous dire que ça me préoccupe pas. C'est la gestion des enfants. OK? Un fils de 10 ans qui est en plein dans l'âge où il trippe encore sur Noël. Il croit peu Père Noël, là, mais tu sais, lui, c'est encore important. Les cadeaux en dessous du sapin, les grands-mères, les grands-parents qui sont là. Ça, c'est... Comment on peut gérer ça? Ça, c'est... Tu sais, il y a la réalité aussi qu'on doit leur présenter, je pense, aux enfants, c'est d'être le plus honnête possible, j'imagine.
Oui, tout à fait. Fait que je pense que c'est correct d'être honnête. On n'est pas obligé de leur dire que le Père Noël est mort de la COVID, peut-être, mais on pourrait, faut pas y aller non plus dans l'extrême, mais on pourrait leur dire cette année que Noël va être différent, que il faut faire attention, faut protéger le Père Noël aussi, il est plus vieux, donc il faut faire attention à sa santé, mais qu'il va peut-être passer dans la nuit pour laisser les cadeaux en dessous de l'arbre, tu sais. Donc on peut y aller un peu, quand même utiliser la magie des fêtes, si je peux me permettre, d'utiliser notre imaginaire pour permettre aux enfants de vivre un beau Noël, mais qui va être différent. Fait que juste de leur dire que cette année, c'est différent. Puis on peut y aller aussi avec les avantages, de pas juste faire les désavantages. Donc oui, se verra pas grand-maman, par exemple, ça peut être plus plate pour un enfant où on n'aura pas toute la famille. Par contre, voici ce qu'on va faire. Donc on peut leur dire qu'on va passer plus de temps avec eux à la maison. On peut faire quelque chose de spécial pour Noël. Je sais pas, moi, tout le monde en pyjama, ou c'est ton repas préféré. On peut leur redonner une impression de contrôle parce qu'ils prennent la décision sur une activité qu'on va faire. Donc il y a moyen ici de rendre ça quand même plaisant pour les enfants, puis de ne pas créer plus de stress qu'il y en a déjà.
Moi, j'y parle du vaccin aussi. Moi, j'y en parle. Il y a 10 ans, là, puis j'y parle de ça. Pfizer, puis ça s'en vient, puis au Royaume-Uni, ils vont être vaccinés, puis ça s'en vient.
Oui, il faut forcer notre cerveau à voir les bonnes nouvelles, à identifier quelque chose de positif dans notre journée. Et ça, vous pouvez le faire en famille, là, à chaque jour, de nommer, par exemple, à l'heure du repas, bon, ben nomme-moi quelque chose qui a bien été dans ta journée ou quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. Et juste le fait de faire ça, ce que ça dit à notre cerveau, c'est que clairement, on ne peut pas être en danger de mort absolu. Et donc, ça va diminuer les hormones de stress, et en voyant le positif, ben, ça change un peu notre lunette et notre façon d'explorer le reste de l'environnement pour la journée.
Justement, parlant de la responsabilité des parents, jusqu'à quel point il y a un aspect biais inné versus acquis lorsqu'on parle de gens qui sont stressés, de gens qui sont anxieux. Mm-hmm. Quand moi, je vois mes enfants qui ont tendance à être un peu stressés comme leur père, je dis « Ah ben, c'est ça, je leur ai transmis ça. » Puis ma mère, elle dit « Ouais, mais c'est moi qui t'ai transmis ça. » Puis je l'avais eu de ma mère, tu sais.
Écoutez, faut pas culpabiliser non plus là-dedans. Je pense que ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Mais en effet, ce qu'on sait, c'est que les enfants dont les parents souffrent de troubles anxieux sont plus à risque eux aussi de développer des problèmes d'anxiété. Alors, on peut penser que c'est le cas aussi pour juste de l'anxiété en général, sans que ça soit nécessairement une pathologie. Hein. Mais on sait qu'il y a à peu près 30 à 40 du phénomène qui serait expliqué par la génétique. Et le reste, ça serait beaucoup par l'environnement. Mais donc, quand on aime nos parents puis qu'on grandit avec eux, c'est toujours la génétique qui influence avec l'environnement, là, la poule ou l'œuf. Mais les deux ont rapport. Alors, c'est normal, nous, comme parents, d'être stressés présentement. Puis peut-être que des fois, nos enfants le détectent. Hein, les enfants, c'est des éponges pour l'apprentissage. Ben ça inclut l'apprentissage aussi de la gestion des émotions, l'apprentissage de l'anxiété. Alors, nos enfants détectent ça et apprennent de nous. Alors, des fois, je pense que c'est bien de leur dire, là, tu sais, maman ou papa a peut-être réagit un peu fortement, voici mm-hmm. pourquoi, mais sache que, et là, on lui rajoute des éléments qui peuvent augmenter son contrôle. Donc, par exemple, on a parlé tantôt des vaccins. Tu vas à l'école, mais on sait que pour les enfants, ce n'est pas, c'est pas une maladie qui est aussi grave, c'est plus pour les grands-parents qu'il faut les protéger. T'sais, donc, de relativiser beaucoup, je pense que ça peut aider les enfants.
C'était très intéressant, Mme Marin. Merci beaucoup.
Merci.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Merci, Marie-France Merci. Marin, docteur en neurosciences et chercheuse. Jérôme, juste, je lance un petit avis aux auditeurs. Là.
Oui.
Je m'apprête dans les prochaines secondes à parler de choses de grandes personnes, d'adultes. S'il y a des enfants qui sont à l'écoute, oui. Changez de poste, revenez dans deux minutes, fermez. Je vous le dis, là. Je vous donne 5 secondes. Là.
Les enfants sont à l'école.
En vous rappelant qu'il y a dehors, bon, c'est un peu nuageux, blablabla. OK, vous avez changé de poste. Comment on gère ça, un enfant qui commence à douter du Père Noël et des lutins? Moi, ça, je vis ça, là, 9 ans, 6 ans. Ma petite est revenue de l'école en pleurant parce qu'il y a une petite voisine qui a dit « Les lutins puis le Père Noël, ça existe pas, ça! » Puis là, oh hey, non, boy. Non. Puis là, j'en ai un qui doute. Puis là, tu dis « Ouais, je veux pas y péter sa bulle en même temps. » Toi, tu disais ton fils croit plus au Père Noël.
Mais ça revient la première année, par exemple. Ça revient. Dans ça le revient. Temps, là, parce que l'enfant le perd, puis ça revient plus tard. La preuve, il y a des gens qui votent pour Justin Trudeau.
Justin Trudeau, mais oui, t'as raison, Nico, t'as raison. Mais moi, vois-tu, il y a 10 ans, c'est la première année qu'il y croit pas. Mais j'ai tiré ça, puis moi, je suis pas tellement un gars d'émerveillement. Tu me connais un peu, là.
Ben.
T'es un gars de factuel, j'essaie de... Mais ça, j'ai tiré ça le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, j'avais peur qu'il m'en veuille, OK? Puis j'avais peur de la journée où il allait découvrir... Que le Père Noël à Place Sainte-Foy, c'est pas un vrai Père Noël, puis qu'il n'a pas de vrai Père Noël.
Ah, mais ça, moi, ils savent.
J'avais peur qu'il soit fort.
C'est comme il est désigné par le Père Noël pour.
C'est, moi, c'est ça, je disais, que c'était un représentant du vrai Père Noël. Mais tu sais, à un moment donné, tu n'as comme plus d'explication. Mais sais-tu ce qu'il m'a dit cette semaine? Il dit, gars, papa, j'y crois plus, là, les lutins, entre autres. Tu sais, je crois plus aux lutins, là, c'était vous autres qui faisiez les coups et tout ça, mais il m'a dit, papa, hein, tu peux-tu y faire encore les coups? J'aime ça. Puis je veux y croire dans mon cœur. Tu comprends?
Okay.
C'est comme venu me chercher aussi. Puis je vais continuer à faire les coups.
Bravo.
Puis lutin, même s'il croit pas.
Puis il y a peut-être un petit côté de lui qui, justement, va... Tu sais, il y a une petite croyance encore. Parce que c'est ça, moi, je vois que la croyance est ébranlée.
Ouais.
Hier, il nous a entendu friguer avec des crayons de couleur. Puis là, il dit, ouais, un matin, mon lutin, il a fait un tour avec les crayons de couleur. Et ma blonde, qui est d'une grande sagesse... a eu la discussion avec lui ce matin, puis elle lui a dit, un moment donné aussi, c'est à toi de décider si tu y crois ou pas.
Ben, c'est ça.
Mais de respecter aussi que ta petite sœur, elle, la magie de Noël, elle y croit beaucoup, puis on veut pas. Puis il est super bon, hein, parce que quand il en parle avec nous autres depuis quelques jours, tu vois qu'il doute, mais avec sa petite sœur, il est dedans là, à 100%. Et ça, je trouve ça beau de
voir. Ben, c'est ça qu'il faut, je pense. Ça qu'il faut que tu gardes, faut que tu protèges ça, ce bout-là, Joe. Mais moi, il m'a dit aussi, il m'a expliqué pourquoi il a cru longtemps. Puis je veux pas aller trop loin, c'est qu'il m'a parlé d'un personnage en particulier qu'on allait voir en spectacle à chaque année, puis il m'a dit, à cause de ce personnage-là, papa, j'y ai cru longtemps, parce qu'il avait l'air vrai quand on allait le voir sur scène, ce gars-là, tu sais, déguisé en Père Noël, tu sais, c'est des méchantes discussions, pareil, ça a l'air de rien, là, mais c'est...
Non, c'est des grosses discussions, parce que, tu sais, je parlais hier avec mes parents, je parlais avec mon père. Je lui expliquais ça. Et mon père, qui a plus vers la fin soixantaine que la jeune soixantaine, me disait que à ce jour, il se souvient encore du jour où il a appris c'est drôle, hein? On est à Radio Bon, on a dit tout le monde a changé de poste, puis on dirait que j'aime pas ça le dire, là. Vous savez, le jour où il l'a appris, vous savez ce que je veux dire. Et que c'est une voisine plus vieille qui avait dit, qui avait fait comme si de rien n'était, puis qu'en revenant chez eux, il s'était mis à pleurer. Tu sais, donc, il s'en souvient encore aujourd'hui. Moi, je me souviens parce que c'est pas quelqu'un qui a pété ma balloune, c'est que j'ai reconnu mon père.
Ben, c'est ça.
Ma grand-maman Trudeau, j'ai reconnu mon père. Puis là, je me suis rendu compte que ça faisait une couple d'années d'affilée que le 24, le système d'alarme à sa job partait tout le temps, puis il était pas là quand le Père Noël venait, tu sais. Ben, il m'avait dit, écoute, oublie pas que t'as des cousins, cousines plus jeunes et tout ça. Moi, ça s'était bien fait, mais pour certains, là, c'est un petit traumatisme.
Ben, c'est ça. On vous rappelle, OK, parce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus. On vous rappelle, si vous avez avec vous des jeunes enfants présentement, peu importe où vous êtes au Québec, allez écouter une autre station Cogeco temporairement, puis revenez après parce qu'on est en train de parler du Père Noël, OK? Dans 5, exact. 4, 3, 2, 1. Quelqu'un qui nous écrit « Tant mieux s'il n'y croit plus, assez les mensonges. » Non, non, ça c'est être
voyons,
Grinch.
C'est quoi ça?
Ça c'est être Grinch. Parce que l'autre affaire que j'ai dit à mon gars l'autre fois, là, Joe, là, c'est que le Père Noël, OK, il n'y a pas un Père Noël qui existe, mais le personnage existe. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est que c'est un beau personnage.
Les valeurs
qui
sont réelles.
Exactement. Tu sais, on sait c'est quoi, là, Nicolas, là, qui donnait des cadeaux. C'est dans la tradition de plusieurs pays. Mané Coca-Cola en a fait le Père Noël dont on a l'image.
Plus commercial.
L'image commerciale. Mais c'est un maudit beau personnage, le Père Noël, quand tu penses à ça, là, qui amène uniquement du positif. On a-tu besoin de positif présentement?
Je pense que oui.
Tu sais, le Père Noël qui va dans les hôpitaux, qui va voir les enfants malades. Le Père Noël qui amène des cadeaux, c'est... Il faut que les enfants l'aient encore dans leur cœur.
Ben oui.
Je trouve le Père Noël, tu sais.
En passant, mon Père Noël préféré dans les films, je suis prêt à se tatuer. Certains vont dire que c'était Marilyn dans le temps. Moi, mon préféré depuis 2-3 ans, c'est Kurt Russell.
Ah, mais j'ai vu en fin de semaine, ça. Je l'ai écouté en fin de semaine.
Le 2 est sorti, là.
Oui.
Qui n'est pas aussi bon que le 1, mais ça fait partie des films que j'écoute avec mes enfants puis que je suis pas sur ma tablette.
Il y a la grosse barbe, il y a une vraie face de
Père Noël. Les costumes sont merveilleux dans ces films.
Exact. C'est juste que le film commence à Cancun, puis là, tu dis, ah ouais, ça va être le fun, il va être à Cancun, mais c'est pas ça nécessairement.
Non, non, mais le 1 est encore meilleur. Kurt Russell en Père Noël, si vous l'avez pas vu. OK, hey, c'est le fun de vous lire 25-226. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul à avoir ces réflexions-là. On va faire une pause. Là, s'il y a des auditeurs qui reviennent tranquillement à l'écoute... Vous avez des enfants pas loin. Une auditrice, Véronique, qui a dit « Merci, je suis en télétravail avec mon fils malade. Merci, nous avons donné un petit avertissement. » Alors voilà, on va y a la petite cloche qui sonne dans le livre pour enfants. Là,
oui.
Et on va passer au prochain chapitre, après la pause.
Mon petit soulier...